Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman.
Ah,
vous êtes un peu flou sur la vidéo. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous suivre évidemment sur le sudradio.fr. Sur le Facebook, non mais ça me permet, et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On va parler sport aujourd'hui avec Laurent-Éric Lelay, évidemment le sport très fortement impacté par la crise du coronavirus. Tout s'est arrêté, beaucoup de questions sur la reprise, sur les JO, enfin on aura plein de questions à lui poser.
Roland Garros devrait démarrer, là on est dans la bonne période, hélas.
Absolument, on aura, et je suis très très heureuse de le recevoir, Jean Todt à 10h30, donc patron de la Fédération Internationale Automobile. On va parler Formule avec lui, mais on va parler également sécurité routière. Il est extrêmement engagé depuis de très nombreuses années. C'est vrai que la mortalité a baissé et pour cause, puisqu'on n'a pas trop circulé. Et il appelle à la prudence, évidemment. On va en parler avec lui. Et puis un témoignage d'un jeune homme chinois d'origine qui vit en France, qui a été coincé à Wuhan, qui a vécu le confinement là-bas et le confinement en France. Il va nous raconter la différence qu'il a pu voir et comment il a vécu ces deux confinements. On va commencer avec les audiences d'hier. Bien écoutez, pas tellement de surprise, c'est TF1 qui est arrivé en tête avec The Resident, 4 491 000 téléspectateurs. C'est tout de même 200 000 de plus que la semaine dernière. À signaler les bonnes performances toujours de Top Chef, 3 767 000 téléspectateurs, c'est 30 000 de plus que la semaine dernière. Mais Rémi Pernalet me signale que c'est surtout 1 million de plus que l'an dernier. Donc parfois les émissions ont tendance à perdre avec le temps. Ce n'est pas le cas pour Top Chef.
Oui,
c'est un très bon carton quotidien, 2 083 000 téléspectateurs, troisième jour consécutif au-dessus des 2 millions, et puis c'est que du kiff, 768 000 téléspectateurs, effet de surprise peut-être, enfin, ou curiosité lundi, et Cyril Hanouna a du mal à remonter, à regrimper. On peut signaler les bonnes audiences également de Qui veut gagner des millions, 2 538 000, et puis Nagui, n'oubliez pas les paroles, 3 623 000, 500 000 de plus que la semaine dernière. Voilà, c'était les audiences d'hier soir. Gilles, on va passer au zapping. Qu'avez-vous retenu de cette journée d'hier ?
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Eh bien, hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, Valérie, il y avait une grande enquête avec le concours de Mediapart sur BFM sur le scandale des masques. On y révélait qu'en mai 2019, un rapport avait été remis par Jean-Paul Stahl au gouvernement, c'est un professeur d'infectiologie, et il conseillait à l'époque au gouvernement de stocker 1 milliard de masques.
On est parti effectivement sur l'hypothèse qu'un jour, il y aurait une pandémie. Pour ce qui concerne les masques, on avait estimé un besoin. C'était grossièrement 1 milliard de masques de besoin pour la population générale dans le cadre d'une pandémie grippale, en évaluant l'infection de la population à peu près à 30%.
Ce rapport ne changera pas l'état des stocks. Aucune commande n'est passée par l'État.
Pénurie de masques, il en a aussi été question à la Commission européenne, comme le rapportait hier le professeur Juvin. Il était l'invité de C'est à vous. Il a fait un constat sur ceux qui conseillent nos ministres.
Il y a eu une réunion le 30 ou le 31 janvier qui demande à une réunion stratégique sur la question du Covid. Autour de la table, il y a les 27 représentants des 27 États et la Commission demande qui est prêt, qui a un problème sur les stocks de matériel de protection. C'est une question très précise. Le compte-rendu dit aucun problème dans aucun pays sauf 4. Et il ne dit pas, la commission, le rapport ne dit pas quels sont ces 4 qui ont levé le doigt en disant nous avons un problème. Ça serait intéressant de savoir si la France a levé le doigt. Je pense qu'il y a un problème de niveau général, des conseillers, des ministres, des conseillers de l'État en général.
Valérie, vous le savez peut-être, A Star is Born, enfin presque, le professeur Raoul a eu le droit à son portrait dans le New York Times, comme le racontait le correspondant à New York, Cédric Fraîche, sur BFM.
Le portrait s'intéresse d'abord à la personnalité de Didier Raoult que les Américains ne connaissent pas, même s'ils ont entendu parler de la piste française de la chloroquine, qui est aussi chinoise et italienne. L'article raconte ce qu'on dit de Didier Raoult en France depuis longtemps, un médecin reconnu, multi-récompensé, mais aussi provocateur, avec des méthodes non conventionnelles, et qui dit de lui-même « je n'aime rien tant que de faire exploser une théorie bien établie ». Alors, le journaliste américain raconte aussi le culte de la personnalité autour de Didier Raoult, son fan club, les objets à son effigie, que le docteur collectionne.
Alors, vous avez entendu, il collectionne les objets à son effigie.
Oui, le papier est extrêmement, n'est pas très très positif hein, du New York Times. Oui. C'est une vraie enquête qui est pas forcément à l'avantage du professeur Raoult.
Alors Raoult, superstar, Hugo, un Marseillais qui a tellement le professeur dans la peau qu'il se l'est fait tatouer sur sa cuisse. Il a fait tatouer son visage, en gros, sur sa cuisse. Les équipes de Quotidien l'ont rencontré.
On a ce monsieur qui est un ponte de la science, qui a le plus gros CV au monde, qui se fait insulter par des petits médecins généralistes de banlieue sur les plateaux télé et qui répond pas. C'est ça qui est énorme. Voilà, c'est qu'il répond même pas. Il en a absolument rien à faire. Et moi, c'est ça que j'adore encore plus que le fait qu'il ait trouvé ce traitement. Après, oui, le voir, il le verra sûrement. Je sais pas ce qu'il en pensera. Et après, en vérité, j'en ai rien à faire. C'est mon délire à moi. Et si ça ne plaît pas à certains, tant pis pour eux, c'est pas mon problème.
Voilà, il passera dans l'émission Tatou, que tu vous savez, où ils refont le tatouage.
Pour le corriger si jamais la chloroquine ne marche pas. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, aller voir le tatouage, parce qu'il est quand même très imposant.
Aller voir le tatouage, c'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant, absolument.
Toujours dans Quotidien, Alexandre Lacroix, philosophe, qui dirige la rédaction de Philosophie Magazine. Pour lui, l'emprise des machines et des réseaux sociaux, ils ont gagné sur les rapports humains.
En fait, qu'est-ce que c'est que la vie sociale qu'on a perdue ? Eh bien, c'est une vie incarnée. C'est une vie dans laquelle il y a du contact, il y a du sourire, il y a des bises, des poignées de main, des baisers, où on est confronté à des gens de manière aléatoire, parce que là, on prend rendez-vous pour une visioconférence, mais on ne va pas...
Sur des gens.
Voilà, on ne tombe pas sur des gens. Et donc, cette dévitalisation de la vie sociale, ça me fait peur, parce qu'on serait devenus les extensions de nos smartphones.
Et puis on va finir avec du sport, Valérie, évidemment. Les surfeurs et les quatre surfeurs, je ne sais pas si vous avez vu dans les différents journaux, ils ont fait le retour sur les plages de Cannes.
Ça faisait 2 mois qu'ils se retenaient, mais ce matin, la tentation a été trop forte.
Là, on n'en pouvait plus. Ça fait 2 mois qu'on était sur les dents. En plus, il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps. Et on maintenait. Et là, on a dit... En plus, la semaine prochaine, il n'y a pas du tout de vent. Donc c'était l'occasion jamais. On a pris le risque.
Voilà, heureusement c'est autorisé, vent, on peut le dire. Voilà.
Oui. Et puis heureusement qu'il y a du vent, parce que les vagues à Cannes, c'est pas réputé pour les grosses vagues quand même.
Bah écoutez, en tout cas, c'est autorisé. On a le droit de se promener sur les plages, de se baigner, mais on n'a pas le droit de lézarder. Voilà. Laurent-Éric Lelay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du service des sports de France Télévisions. Alors vous avez lézardé pendant 2 mois. Plus de sport à la télévision, plus rien à faire, chômage technique.
Oui, lézardé, je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'on a beaucoup travaillé depuis notre domicile, mais c'est vrai que les événements sportifs se sont arrêtés brutalement.
Oui, ça devait être une très très grande année sportive et tout s'est arrêté, sport amateur, sport professionnel. Comment est-ce que vous, directeur des sports, avez vécu cela et comment est-ce que France Télévisions s'est adapté à ce bouleversement ? Parce qu'il a fallu à la fois bouleverser les programmes, on parlera après finances, mais comment vous avez vécu ça, vous ?
Écoutez, on a bien évidemment suivi toutes ces annulations qui sont arrivées les unes après les autres, mais auquel on s'attendait sincèrement. Ouais. C'est vrai que la pandémie provoquait un problème sanitaire tel dans le monde qu'il était assez naturel que les événements sportifs s'annulent. Donc une fois qu'on les a enregistrés, on s'est très très vite adapté à France Télévisions et notre travail a été avec les fédérations et les organisateurs d'événements de pouvoir essayer de comprendre comment ces événements pouvaient être reprogrammés dans le futur. Et on a vu petit à petit le calendrier se réorganiser à partir du mois d'août, de la fin août et du mois d'octobre.
Et vous êtes optimiste ? Parce qu'il peut y avoir un rebond du virus, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Puis dans quelles conditions, surtout, tout cela va-t-il reprendre ? On pense évidemment au public pour le Tour de France, pour Roland-Garros, enfin pour tous les sports.
Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas me donner mon avis sur savoir s'il va y avoir une seconde vague ou
non. Non, mais c'est vrai que c'est pas sans risque, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc est-ce que vous anticipez déjà justement, alors ce n'est pas vous France Télévisions, mais de ce que vous savez sur Roland-Garros, sur le Tour de France, comment ça peut se tenir avec du public ? C'est quand même la grande question aujourd'hui qui se pose.
Oui, c'est la question qui se pose. Bon, après, je pense que les Français, j'ai envie de dire, l'ensemble des habitants de la planète qui aiment le sport ont envie de revoir du sport aujourd'hui, même si c'est à la télévision et même si c'est sans public. Bon, je pense que tous les fans du Paris Saint-Germain, ils ont envie de savoir si leur club peut, en quart de finale de la Ligue des Champions, aller loin. Ils ont envie que la nouvelle saison de Ligue 1 reprenne. Et les fans de tennis, ils ont envie de voir du tennis. Et les fans de Tour de France ont envie de voir Tour de France. Après, si c'est à huis clos, parce qu'à un moment, il est jugé par les pouvoirs publics, par les organisateurs, par les acteurs, que bah, c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir du sport, un événement sportif à huis clos, que pas d'événement sportif du tout. Parce que si on attend que ça revienne comme avant, ou si on attend qu'il n'y ait plus aucun cas déclaré de coronavirus dans le monde, pendant, je ne sais pas, plusieurs semaines, on risque d'attendre longtemps. Donc, je ne suis pas sûr que cela soit la solution.
Mais derrière
est-ce
ça, c'est
une pardon, derrière j'avais ça, juste une question sur la finale de... Bon, attends, il y a deux questions, Gilles. J'avais juste une question sur la finale de la Coupe de France. Oui. Est-ce que vous avez une date?
On n'a pas de date, mais on espère bien, avec la Fédération française de football, qu'elle puisse se jouer au mois d'août, un petit peu en amont de la reprise des championnats. Je pense que il y a une finale de la Coupe de France, il y a une finale de la Coupe de la Ligue, les deux avec le PSG. Pour l'un, c'est Saint-Etienne, et pour l'autre, c'est Lyon. C'est des événements qui seront diffusés en clair sur France 2 en prime time. Ce serait une bonne manière d'offrir à l'ensemble des Français du football, même si, une fois encore, les matchs se jouent à huis clos.
Je vais poser une double question alors, Valérie. Oui. Est-ce que derrière ça, c'est pas une question d'argent, parce qu'on sait que la télévision finance une bonne partie du sport français. Et je double ma question. Est-ce que vous avez déjà payé les Jeux Olympiques ou pas? Est-ce qu'il y a de l'argent qui est sorti des caisses de France Télévisions pour les Jeux Olympiques? Et est-ce que vous serez remboursé ou vous attendez l'année prochaine?
Non, on a adapté tous les échéanciers de paiement avec tous les organisateurs d'événements de manière naturelle. Chez France Télévisions, on ne paiera les événements que s'ils sont organisés et diffusés, c'est très clair. Suivant les contrats, parfois, il y a des échéanciers qui font qu'on paie un peu en avance. Ce sont des sommes qui seront bien évidemment remboursées si l'événement n'a pas lieu. Donc ça, il n'y a pas de souci aujourd'hui avec cet aspect-là. On ne paie que ce que l'on diffuse.
D'accord. Après, sur le tour de... Oui, la question de l'argent, effectivement, des droits.
La question de l'argent, il y a un modèle économique dans le sport. C'est assis sur un modèle économique. Vous avez des organisateurs, vous avez des équipes de football, des équipes de rugby, des équipes de cyclisme qui ont des frais, qui n'ont pas de recettes. Donc, qui cherchent, eux, à continuer leur événement sportif pour générer des recettes et éviter la faillite, nous paraît normal et naturel. Nous, le propos, il ne faut pas le réduire à une question d'argent. Je pense que ce serait... provocateur et ça ne servira à rien. Je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on sent chez l'ensemble des Français le besoin et l'envie de regarder de nouveau du sport. Ça fait partie, selon moi, des petits signes de retour à, si vous me permettez des guillemets, une vie un peu plus normale.
Ouais. Absolument. Une question, Rémi Pernelat qui nous écoute se demande si on pourra faire respecter le huis clos sur le Tour de France en particulier. Le Tour de France, on le sait, c'est par principe sur les routes de France avec beaucoup de public massé. Est-ce que c'est une chose dont vous avez parlé évidemment pour ce prochain Tour de France?
Oui, je ne veux pas mettre à la place de Christian Prudhomme et des organisateurs, mais c'est vrai que...
Non, mais j'imagine qu'il y a eu cette discussion, oui.
Bien sûr, dans certains cols, alors c'est une discussion qu'ils ont, une réflexion qu'ils ont avec les pouvoirs publics, bien évidemment, que ce soit dans les zones de départ, dans les zones d'arrivée ou dans certains cols, il est tout à fait possible de réduire ce qu'on appelle la densité. Donc ça fera peut-être partie des mesures qui seront demandées, qui seront prises. On verra bien où en est le virus d'ici là. Hein. L'événement, il a lieu dans 3 mois, donc si on se remet ne serait-ce que 3 mois en arrière, on voit un petit peu tout ce qui peut se passer dans le monde. Nous, en tant que diffuseurs, on s'adapte aussi. On travaille sur deux plans. Un plan où on couvre naturellement le Tour de France, ou un autre plan où, parce qu'on nous demande de réduire la densité des équipes sur place pour pouvoir respecter les fameux gestes barrières et notamment la distanciation sociale, on réfléchit à n'envoyer que le minimum d'équipes sur place. Donc nous aussi, on travaille beaucoup sur différents schémas de production pour pouvoir s'adapter au mieux dans le maximum de conditions de sécurité à la situation du moment.
Vous avez demandé à vos journalistes sportifs d'être testés ou pas ?
Écoutez, le test, c'est quelque chose qui est volontaire. Donc aujourd'hui, il n'y aura jamais d'obligation de ma part ou de la part de France Télévisions de demander à un tel ou à un tel d'être testé. Maintenant, s'il y en a qui veulent être testés, il me paraît tout à fait normal qu'ils puissent l'être.
Après, Oui, pardon, allez-y.
Non, mais c'est important les tests. Après, on sait que c'est pas non plus une finalité absolue. Je crois que vous connaissez comme moi, je dirais, l'avantage et le désavantage des tests.
Ce qui est différent. Il y avait un grand article ce matin, ce matin justement, qui expliquait que c'était parfois très trompeur, quoi, des tests qui peuvent être négatifs sur des gens qui sont positifs. Enfin, bon, c'est pas la panacée totale. Ouais. Et donc, sur les sportifs, les sportifs.
Bah, les sportifs, il y a des procédures qui vont être mises en place. Regardez, là, il y a la reprise ce week-end du football allemand. Il y a tout un tas de consignes, un protocole sanitaire très complet qui va être mis en place et qui prévoit d'ailleurs le test deux fois par semaine de l'ensemble des joueurs et des acteurs. Donc c'est aussi intéressant, c'est une manière aussi de pouvoir déceler le plus tôt possible.
Oui. Une question sur les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que les Jeux de Tokyo seront vraiment possibles? Guy Drut qui pense qu'il va falloir revoir l'organisation des JO. Alors ça sort un petit peu effectivement de votre rôle, encore que France Télévisions va diffuser les Jeux Olympiques. Donc vous y êtes et vous êtes évidemment concerné.
Écoutez, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été, je pense, sagement décalés d'un an. Voilà, après spéculer sur le fait de savoir est-ce qu'ils vont avoir lieu ou pas me paraît...
Ouais, c'est toute la difficulté, ouais.
Un peu prématuré, excusez-moi pour l'instant, je pense que aujourd'hui c'est difficile d'imaginer qu'ils n'auront pas lieu. Bon, après sur l'organisation et sur le propos de Guy, Guy il explique que peut-être une nouvelle ère va arriver et que aujourd'hui il faut peut-être penser que les jeux vont s'organiser différemment. À ce sujet, Thomas Barr, le président du CIO, a lancé une grande réflexion auquel le groupe France Télévisions s'associera pour essayer de proposer des idées sur le futur de l'organisation de ces très très grands événements sportifs.
Il y avait, pour la diffusion des Jeux Olympiques, on a prolongé en partie l'existence de France 4 et de Franceau. Est-ce que ça sera le cas l'année prochaine pour avoir une diffusion multichaîne des Jeux Olympiques, ce qui vous a permis d'ailleurs d'avoir le contrat parce que vous proposiez de diffuser beaucoup plus de disciplines grâce à ce dispositif. Vous souhaitez que France 4 existe toujours ?
C'est peu important ce que je souhaite. Je crois que la décision, elle appartient, vous savez, à notre tutelle. Je pense qu'elle rendra sa décision d'ici quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas exactement. On utilise beaucoup France 4 et Franceau d'ailleurs pour la diffusion d'événements sportifs et c'est vrai que ça nous permet de compléter ce que l'on diffuse sur France 2 et sur France 3, surtout quand vous avez des événements sportifs qui proposent énormément de contenu et vous citez les Jeux Olympiques, c'est un très bel exemple. Parallèlement à ça, indépendamment de France 4 et Franceau, on développe une offre sur le digital, sur le portail France.tv, qui est de plus en plus riche et qui, petit à petit, arrive à réunir une très belle audience, une forte audience, et joue ce rôle de complémentarité par rapport à France 2 et France 3. Donc on travaille également sur cet aspect-là.
Le sport va être durablement impacté par cette crise du coronavirus ?
Comme le reste de l'économie. Aujourd'hui, il va être. On n'imagine pas encore l'impact sur l'économie, mais c'est vrai qu'il y a les professionnels d'un côté, il ne faut pas oublier les amateurs, les clubs amateurs, il y a des questions sur la pratique, il y a des questions sur le financement, et qu'aujourd'hui, moi, je suis très, très soucieux que le sport puisse repartir en tant que pratique pour l'ensemble des Français. Vous avez des tonnes d'enfants qui rêvent de jouer au football et aujourd'hui, ils ne peuvent pas trop. Je ne vous parle pas de sport. Plus de contacts, ne serait-ce comme le rugby, et donc bien évidemment qu'il va être impacté, et lui aussi doit trouver de nouvelles manières de s'organiser pour pouvoir proposer quelque chose qui me paraît fondamental pour une société comme la société française.
J'imagine que le retour des émissions, Stade 2, tout le sport, il faut attendre que le sport reprenne. C'est un peu comme pour le journal L'Équipe. Hein. S'il n'y a pas de match, s'il n'y a pas de compétition, c'est le chômage technique.
Non, parce qu'on a gardé Stade 2. Stade 2 continue à être diffusé. On l'a pas arrêté, on l'a diffusé. D'abord dans un format de 52 minutes, puis après dans un format de 26 minutes. Dimanche, sur la dimanche soir sur France 3 à 20h. Il nous paraissait important de continuer à donner des nouvelles du sport, des sportifs qui, vous savez, non, même confinés, ne sont pas restés inactifs. Ils ont envoyé beaucoup de messages positifs, ils ont montré comment ils s'entraînaient à la maison. Et donc, ça nous a permis de continuer à parler de sport. C'est vrai que nous avons arrêté TLS, mais nous avons développé un TLS en format numérique, TLS tout le sport en format numérique. Et depuis lundi, on a un rendez-vous qui s'appelle l'Instant TLS, qui est diffusé à 20h45 sur France Info. Donc, on est extrêmement présent. Et puis, on s'est adapté, on a lancé une émission qui s'appelle « Rester en forme » pour pouvoir proposer à l'ensemble des Français de faire du sport à la maison, diffusée sur les antennes de France 3, France 5 et France 2 le week-end, qui, on appelait ça un peu, ceux qui s'en rappellent, une version un peu moderne de Jim Tonic à l'époque, mais qui a rencontré un très très beau succès, qui a permis, à beaucoup de Français de chez eux de pouvoir faire une bonne demi-heure de sport.
Merci beaucoup, Laurent-Éric Lelaide. Oui, vous
Merci
faites le sport,
vous.
Évidemment.
Mais oui, sur France 5, je regarde.
Évidemment. On a un auditeur très attentif, Mickaël, qui a remarqué que vous aviez un mug Danse avec les stars. Alors, ça fait. Vous faites des gels, Laurent-Éric Lelaide, pour ceux qui nous regardent en vidéo.
Ah oui, exact, parce que c'est un vieux mug à l'époque où j'étais chez TF1. Vous l'avez.
voilà. Incroyable. Donc, tout le monde a vu votre mug. Il va falloir changer de mug. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, on va suivre évidemment tout cela avec intérêt. Dans un instant, je recevrai Jean Todt pour parler. On va parler évidemment, hier c'était les 70 ans de la Formule 1 et puis sécurité routière, puisque vous le savez, Jean Todt est extrêmement impliqué sur ce sujet. Merci à vous, Laurent-Éric Lelaide. Merci, à bientôt.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on aura tout à l'heure le témoignage d'un jeune homme qui a été confiné à Wuhan. Il va nous raconter son confinement en Chine. Et puis quand il est revenu en France, il a été confiné 2 mois également, donc pratiquement 4 mois de confinement. C'est un témoignage qu'il raconte dans un livre. Et puis on aura également Jean Todt, président de la Fédération internationale automobile. On va parler des 70 ans de la Formule 1, mais surtout de sécurité routière avec lui. Quelques informations, Gilles, que vous vouliez nous donner.
Valérie, je voulais vous donner une petite info. Vous vous souvenez de Guillaume Canet qui était à l'affiche du film Au nom de l'Inter, vous savez, dans lequel il s'est beaucoup
marché,
investi.
Ouais.
Voilà, où il prenait, il s'engageait pour la cause des agriculteurs. Eh bien, c'est toujours quelque chose qui lui tient à cœur. Il a lancé depuis fin avril, début mars, une chaîne qui s'appelle Cultivons-nous TV, qui marche de plus en plus. C'est une chaîne en soutien aux agriculteurs. Alors, il y a évidemment des vidéos de reportages, de documentaires, mais cette chaîne a même ses propres équipes. C'est la première chaîne en SVOD sur l'agriculture, sur le bien manger et sur la transition écologique. Et donc, c'est Guillaume Canet lui-même qui sélectionne des documentaires, des reportages, des programmes courts pour cultiver nos connaissances et ce que l'on met dans nos assiettes. Cette chaîne s'appelle-t-on Cultivons-nous.tv. C'est une chaîne numérique, évidemment, dirigée par Guillaume Canet et mise en place par Guillaume Canet. Il y a un abonnement pour cette chaîne qui est de 4,99€ par mois et 1€ est reversé à l'association Solidarité des Paysans. La solidarité continue.
C'est cher, non ? C'est un petit peu
4,99€, ça dépend du contenu. Il y a des films, il y a pas mal de choses. Voilà, si ça vous intéresse.
Ouais,
mais c'est l'occasion de faire une bonne action et d'être solidaire. Et puis, vous avez peut-être vu ça, c'est Playmobil qui a aussi lancé, la marque de jouets, son masque de protection contre le coronavirus. Alors, il est évidemment aux normes pour les protections sanitaires. C'est un peu étrange d'avoir un masque de Playmobil, mais vraiment, ces masques sont pas un dispositif médical, FFP2.
Non, mais ils sont aux normes, ils sont un peu carrés, ils sont très Playmobil look, je trouve. Mais oui.
Alors, je ne sais pas si je suis à l'antenne ici.
Si. 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 Ah, on n'entend plus Gilles, donc on vous a perdu. Jean Todt, vous êtes en ligne avec nous ? Jean Todt, vous m'entendez ?
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour.
merci d'être avec nous, président de la Fédération internationale automobile depuis 2009. La FIA, c'est le régulateur du sport automobile. Je suis très heureuse de vous avoir ce matin. Je vous ai entendu il y a quelques jours parler de sécurité routière. Donc, on va en parler évidemment avec vous. Il faut savoir que vous êtes extrêmement engagé sur ce sujet. Vous avez été nommé par Ban Ki-moon, envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies pour la sécurité routière. On va également parler de tout ce qui concerne le sport automobile. On avait Laurent-Éric Lelay tout à l'heure, on a parlé avec lui de l'ensemble des sports qui se sont arrêtés. Il faudrait que vous baissiez un tout petit peu le son derrière vous parce que ça résonne. Déjà peut-être commençons avec les 70 ans de la Formule 1 que vous avez célébré hier dans une ambiance un petit peu triste puisque tous les Grands Prix ont été annulés.
Alors oui, bonjour Valérie.
Bonjour.
Effectivement, on est dans une période particulière de confinement dans le monde, hein, puisque cette crise affecte plus de 200 pays, donc ça rend l'organisation d'épreuves sportives évidemment secondaire et impossible, en tout cas dans un contexte normal. Mais on ne peut pas dire que le championnat du monde de Formule 1 et d'autres championnats de compétition automobile vont être annulés, mais ils vont être revisités, et nous sommes en train de travailler actuellement avec le promoteur du championnat de Formule 1 de la FIA sur un nouveau calendrier qui commencerait en Europe début juillet, en Autriche, mais évidemment dans un contexte différent de semi-confinement, dans la mesure où le public ne pourrait avoir accès au circuit. Donc ça veut dire que ce serait un sport qui serait pratiquer une compétition qui serait pratiquée en circuit fermé et qui serait bien évidemment télévisée dans le monde.
Oui, ça change quand même quelque chose, non? Un sport sans téléspectateurs, sans spectateurs, oui.
Je crois qu'aujourd'hui tout a changé.
Oui.
Tout a changé puisque tout le monde a été confiné, vous comme moi, et puis qu'on est en train d'assister à ce déconfinement qui, donc justement, se fait par étapes. Et l'étape prioritaire, eh bien, c'est pas on va avoir un Grand Prix. Donc il y a d'autres étapes qui font que petit à petit on va retourner au travail, que petit à petit les endroits publics vont se réouvrir. Ça a commencé, mais je vois par exemple aujourd'hui vous ne pouvez pas aller au restaurant en France. Donc ça va se faire par étapes et on est en train de gérer par étapes la réorganisation, la reformation des différents calendriers pour 2020.
Donc le prochain, le premier Grand Prix qui va reprendre, ce sera, vous nous l'avez dit, début juillet en Autriche, c'est ça?
Absolument.
Ouais. Et donc là, il est prévu.
Sous réserve de confirmation, mais en tout cas, on travaille sur ce plan.
Sur ce plan-là, qu'est-ce que ça change dans votre univers, justement, parce qu'il n'y a pas que les Grands Prix. Hein. Encore une fois, la Fédération internationale automobile, ça concerne tout ce qui est sport mécanique.
Un volet de détail, la Fédération internationale automobile a deux volets. Nous sommes le régulateur et le législateur du sport automobile dans le monde. Donc ça veut dire c'est le karting, c'est les rallyes, c'est les cross-country, les rallyes longue distance, le championnat du monde d'endurance avec des courses comme les 20 quarts du Mans, la formule électrique, et puis évidemment la pyramide de la monoplace, la Formule 4, Formule 3, Formule 2 et Formule 1. Et l'autre volet de notre activité, c'est ce qui s'appelle la mobilité. Et nous avons dans environ 150 pays des automobile clubs qui fournissent des services aux utilisateurs de la route, qui peuvent être des piétons, des cyclistes, des motocyclistes ou des utilisateurs de voitures. Et à ce titre, nous avons deux priorités. L'une, c'est la sécurité routière. qui est également un des plus grands fléaux de la société, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de nombre de morts. Le coronavirus, malheureusement, à ce jour, a tué pratiquement 300 000 personnes. Au niveau de la route, tous les ans dans le monde, il y a environ 1 350 000 personnes qui perdent leur vie sur les routes, et il y a environ entre 40 et 50 millions de blessés avec des séquelles pour la vie des victimes. Et c'est la cause numéro un de décès pour les jeunes entre 5 et 29 ans. Et si je peux faire une mauvaise comparaison avec ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid-19 et la route, c'est que la spécificité du Covid-19, c'est un virus qui se déplace et qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter. Alors que la route, on sait comment traiter. C'est éducation, application des lois, la qualité des véhicules, la qualité des réseaux routiers et la qualité des secours aux victimes. Et malheureusement, tout ceci n'est pas respecté de la même manière dans les différents pays. Si vous prenez la France, qui est un pays qui a bien travaillé, il y a 45 ans, il y avait 18 000 morts sur les routes tous les ans. L'année dernière, il y a eu, avec trois fois plus de véhicules par rapport à ce qui se passait en 1975, il y a eu 3250 morts. Donc, ça veut dire que beaucoup d'efforts ont été faits et ça marche. Alors que dans tous les pays en voie de développement, tout ce qui devrait être fait n'est pas fait. On espère que, ce confinement mondial, planétaire, va pouvoir permettre de faire comprendre un certain nombre de choses, de faire comprendre un certain nombre de valeurs, et d'une certaine manière que ça nous permettra de mieux appliquer justement ces prescriptions que nous connaissons pour diminuer le nombre de victimes sur la route. Mais là, il y a aussi l'effet contraire, parce que à partir du moment où il y a eu pratiquement plus de véhicules sur les routes dans une grande partie de la planète, lorsque les véhicules vont revenir, déjà il y a cette angoisse de partage, les transports publics, donc ça va générer plus de véhicules sur les routes, dans les villes, donc potentiellement plus d'accidents. Donc ça, c'est quelque chose justement où il va falloir être très attentif.
C'est là-dessus où vous avez alerté sur et même un éventuel relâchement qu'on peut craindre. On a vu même pendant le confinement des voitures qui roulaient extrêmement vite.
Il y a eu beaucoup moins de véhicules, mais par contre, d'une certaine manière, certaines personnes irresponsables pensaient que c'était une liberté retrouvée. Il y a eu beaucoup d'accidents, trop d'accidents d'ailleurs, avec des conséquences souvent plus graves que d'habitude. Pourquoi ? Parce que la vitesse n'était pas respectée.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Jean-Todd ? Est-ce que certains y voient un paradoxe à vous voir, vous qui avez été patron de Ferrari, patron de Peugeot, qui avez couru des rallyes, à vous voir vous préoccuper de sécurité routière ? Il n'y a pas un paradoxe ?
Alors, vous savez, il y a toujours différentes manières d'interpréter et de juger les angles des situations. Mais au contraire, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement complémentaire, dans la mesure où la compétition automobile, le souci principal, c'est de l'exercer en toute sécurité. Et si vous prenez la Formule 1, là aussi, il y a quelques décennies, c'était fréquent d'avoir une fatalité en compétition automobile. Alors qu'aujourd'hui, ça devient très rare. Pourquoi ? Parce que il y a eu des efforts formidables qui ont été consentis pour la sécurité des voitures, la sécurité des circuits et les équipements. Donc, ce qui veut dire que pour moi, la compétition automobile est un spectacle, mais, et le sera de plus en plus, est également un laboratoire. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une des responsabilités principales de la FIA, la sécurité routière, mais il y a également l'environnement. Donc, nous faisons en sorte que la compétition automobile ne soit pas porteurs ou porteuses de pollution. Et c'est une des raisons pour lesquelles, eh bien aujourd'hui, nous avons engagé une nouvelle discipline qui est la formule électrique, qui se déroule principalement dans les villes. Tous les règlements moteurs, que ce soit Formule 1, que ce soit championnat d'endurance, eh bien c'est avec des véhicules hybrides. Donc c'est le rôle de laboratoire que nous jouons et qui est absolument essentiel et puis qui doit évidemment avoir des répercussions sur la route et sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde.
Oui, c'est un message qui n'est pas toujours facile à faire passer, celui de la sécurité routière.
Bah,
on a toujours
vous.
Le sentiment.
Oui,
oui, mais justement, moi,
je suis
mais je suis très engagée depuis plus de 20 ans sur le sujet et j'ai fait énormément d'émissions sur ce thème. Mais justement, j'ai pu constater qu'on a toujours le sentiment que le mauvais conducteur, c'est l'autre et que et la répression est assez mal acceptée, en particulier les radars. Est-ce que vous pensez que ça fait partie en l'occurrence?
Mais c'est indispensable. Mais là, on en revient. C'est pourquoi. Pourquoi la France, notamment, est arrivée à contrôler ce virus? C'est parce que des décisions extrêmement fortes ont été prises par le gouvernement. Puis le gouvernement s'est assuré qu'elles soient respectées. Et comme chaque individu, chaque citoyen avait la peur de ce virus, eh bien, il était beaucoup plus respectueux de ce qui lui était demandé. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse sur la route.
Et vous êtes soutenu, alors je rappelle que vous avez lancé une campagne internationale 3500 vies, 3500 lives.
3500 vies, on peut le dire en français.
3500 vies, voilà, 3500 morts par jour sur les routes dans le monde.
En fait, on a lancé cette campagne avec JC Decaux dans environ 900 villes à travers le monde, dans plus de 100 pays. Et pourquoi elle s'appelait 3500 vies? C'est parce que tous les jours, à l'époque, en 2017, il y avait 3500 morts sur les routes. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, si on devait relancer cette campagne, ou la mettre à jour, on l'appellerait 3800 vies. Oui. Parce que le nombre de morts a augmenté globalement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a malheureusement 3800 morts tous les jours sur les routes.
Et ce qui tue le plus, c'est quoi? C'est la vitesse ou pas, selon vous?
Alors, il y a plus. La vitesse est une des causes numéro un, mais le non-port de la ceinture de sécurité, numéro un, le non-port du casque dans beaucoup de pays ou des casques qui ne sont pas homologués, la vitesse, l'alcool, la drogue. Voilà les motifs principaux. Et puis parfois la somnolence.
Bon, bah écoutez, merci d'être intervenu, Jean-Todt. Je précise que vous avez publié un livre aux éditions Acteurs Publics qui va paraître dans les semaines qui viennent en France et qui fait le point sur justement toute cette action que vous avez menée auprès de l'ONU. Merci d'avoir été avec nous. J'encourage tout le monde à aller voir votre compte Twitter parce qu'il y a ces petits clips. Vous êtes soutenu par de très nombreux artistes, par de très nombreux sportifs, Raphaël Nadal, Antoine Griezmann, Didier Drogba, par des artistes également dont votre épouse Michèle Yeo. Donc vraiment bravo pour cet engagement et j'espère que le message va passer et qu'effectivement le déconfinement n'est pas synonyme de relâchement en matière de sécurité routière. Merci à vous, merci Jean-Todt. On se retrouve nous dans un instant pour parler confinement avec un jeune homme qui a été confiné pendant près de 4 mois, que ce soit en Chine ou en France. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
C'est un témoignage tout à fait passionnant que nous livre Bingtao Chen. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes et à
tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous publiez Wuhan Confidentiel, c'est une version numérique, ça paraît chez Flammarion, donc on peut se le procurer pour 3,95€, je crois. Ce sera en librairie au mois de septembre. C'est un témoignage, enfin c'est plus qu'un témoignage, c'est le récit de ce que vous avez vécu. Vous êtes chinois, vous êtes arrivé en France pour une mission, vous ne parliez pas un mot de français. C'était en 2014. Vous êtes arrivé à Grenoble. Ça a été un changement radical. Vous êtes tombé amoureux. Et puis, vous êtes dit que votre vie était en France. Vous y êtes resté. Et puis là, vous êtes reparti, comme vous le faites chaque année, pour fêter le nouvel an chinois.
C'est
et
ça.
patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé en plein début de coronavirus.
C'est ça. Donc, je suis rentré en Chine comme d'habitude, comme tous les ans, pendant les Nouvel An chinois. Et trois jours après mon arrivée à Wuhan et la fermeture totale de Wuhan, et il y avait plus de bus, plus d'autoroutes, plus d'avions, plus de trains. Donc, j'étais bloqué à Wuhan pendant quasi deux mois.
Ouais. Et donc, quand vous êtes arrivé, ça vous inquiétait pas trop, hein, c'est ce que vous racontez. L'ambiance était, bon, il y avait quelques cas et vous avez vu monter petit à petit, en fait, l'inquiétude et puis les mesures qui ont été prises, mesures drastiques que vous racontez dans le livre. Hein.
Oui, c'est ça. Au tout début, il y avait avant de partir en Chine, il y avait ma sœur elle m'a appelé en me disant juste glisser une phrase que actuellement il y a l'expert, ils ont découvert un virus que vous connaissez pas et apparemment les experts ils disent qu'il n'y a pas de contamination entre humains, donc tu peux rentrer. Donc je suis rentré comme prévu. Et après la fermeture de ville de Wuhan, je me suis dit c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est pas vraiment une petite grippe, et il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer. Donc les choses ça a aggravé du coup au tout début c'était on est juste suggéré de ne pas faire des visites familiales, donc le regroupement familial sont moins suggérés, et après ça arrive sur on peut sortir seulement une main de famille une fois par trois jours, donc pour faire les courses. Et après 13 février, on peut plus sortir, donc c'est la nourriture livrée jusqu'à la porte. Voilà.
C'est également une photographie que vous nous livrez de la Chine, avec un pays évidemment qui est hautement numérisé. Vous parlez de ces QR codes verts, et en même temps, ce qui est frappant, c'est, on va en revenir sur les QR codes, mais c'est l'appartement que vous décrivez de vos parents, qui est glacial, il n'y a pas de chauffage, il y a un côté un petit peu Seconde Guerre mondiale, vous êtes obligé de, il y a du marché noir, il y a du trafic, il y a un décalage incroyable dans cette société.
Oui, par rapport le chauffage, c'est que je pense qu'on est un peu habitué, c'est qu'on n'a pas pas vraiment de la chance, parce qu'on est sur la séparation la ligne de nord et sud, donc au nord de la Chine, donc il y a le chauffage, donc c'est nous Wuhan, la ville est vraiment située sur la séparation, donc même la ville il fait en hiver il fait souvent moins 5 degrés, donc on n'a pas de chauffage, mais on essaie de mettre le vêtement un peu plus pour devenir
plus chaud. C'est ce que vous racontez. Ce qui est assez fascinant, c'est l'organisation, et après il y a la comparaison quand vous réussissez à revenir en France. Ces deux voisines qui frappent à 9h30 à la porte, qui font partie de ce qu'on appelle les comités de quartier, qui viennent prendre votre température, c'est fou.
Oui, ça c'est pour nous en fait. Je pense que c'est nous on est habitués, parce que c'est des voisines, donc on est connus. Donc chaque jour on passe, on dit bonjour. Et en plus ce sont des personnes qui le comité de quartier, ça s'occupe aussi des démarches administratives. Donc pour nous c'est un peu entre guillemets normal. C'est à eux de venir nous dire que là il y a une nouvelle mesure, donc il faut mesurer la température une fois par jour, donc c'est à eux de le faire, donc ça nous a pas trop choqués.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'organisation par rapport à la France, et on peut en parler, vous êtes extrêmement surpris. Il y a donc ces QR codes qui sont ces codes qu'on flash et qui sont verts ou rouges et qui permettent de dire si vous êtes ou non autorisé à vous déplacer et contaminé. Et c'est vrai que la surprise pour vous, c'est quand vous revenez en France et que vous voyez qu'il n'y a aucun contrôle.
Oui, c'est ça. Donc le moment où je suis arrivé en France, quand j'étais à l'aéroport de Shanghai, donc tous les employés sont en combinaison. Donc c'est vraiment il y a pas de peau qui est exposée à l'extérieur. Mais le moment où je suis arrivé à Charles de Gaulle, donc CDG à Paris, et que il y avait peu de personnes qui est masquée et j'étais même pas mesuré la température par l'employé de l'aéroport. Donc il y avait vraiment une grosse différence entre la Chine et la France. Donc ça m'a un peu choqué.
Ouais. Ouais, et vous n'épargnez évidemment pas les autorités chinoises où vous avez un petit peu de mal à comprendre le déni qu'il y a pu y avoir sur les alertes lancées par ce jeune médecin qui est mort. Et on voit que c'est un non-sujet dans votre famille. Quoi. Il faut pas, on ne parle pas de ça.
On avait quand même un peu discuté avec mon père. Ouais. C'est juste souvent ce genre de discussion, ça amène sur une grosse discussion et il y a ma mère, elle nous a interdit de parler un peu ce genre de sujet. Ouais. Qu'on est déjà confiné avec mes parents, s'il y a une mauvaise ambiance entre nous, ça va être un peu compliqué.
ça va être compliqué. Finalement, vous en êtes sorti du confinement? Vous êtes sorti, vous êtes, parce que c'est incroyable, vous êtes resté 2 mois là-bas, vous êtes arrivé en France, vous êtes tombé en plein confinement, donc 4 mois confinés.
C'est ça,
vous êtes pro, vous êtes devenu professionnel des jeux vidéo. C'était votre occupation là-bas.
C'est ça. Quand j'étais en Chine, donc avec mes cousins, qu'on a trouvé une plateforme qu'on puisse jouer sur une plateforme. Donc ça nous a vachement occupé. Et quand je suis arrivé en France, donc heureusement, je peux faire du télétravail. Et donc
Vous avez pu travailler, à lire également. Enfin, il y a plein de choses à découvrir dans votre témoignage aussi, la façon de gérer totalement différente, on l'a dit. Et puis des têtes qui tombent là-bas, où le gouvernement chinois n'hésite pas à supprimer supprimer le mot. Non, c'est pas supprimer physiquement, mais en tout cas à virer ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Et puis moi, j'aime beaucoup. J'ai appris ça qu'en Chine, on ne dit pas comment ça va, mais on dit est-ce que tu as bien mangé. Et
oui,
j'ai trouvé que c'est une bonne formule. Voilà, maintenant je vais demander ça aux gens que je rencontre. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Wuhan confidentiel, d'un confinement à un autre. C'est paru chez Flammarion avec la collaboration de Stéphanie Thomas. L'idée du livre est partie depuis une interview du journal en ligne Les Jours. Et puis c'est un témoignage tout à fait passionnant, intéressant, le confinement vu de l'intérieur en Chine et en France. Merci d'avoir été avec nous. Bing Tao Chen. Merci. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite.